Inattendu.
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 Inattendu. On poursuit notre quête de l'inattendu. Inattendu. L'inattendu.
L'inattendu.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans l'Inattendu sur Scilab, votre émission d'actualité scientifique locale et étudiante. Il est 17h, ce qui signifie que l'Inattendu commence tout de suite.
L'Inattendu, l'Inattendu.
Vous êtes toujours dans l'Inattendu.
Il pensait les affaires.
Et avec moi aujourd'hui en animation, Milad.
Salut Angelina, une petite pensée pour la musique qui a été coupée 30 secondes après son lancement. Bah oui, c'est assez inattendu.
Mais alors dis-moi, qu'est-ce qui nous attend ce soir au programme de l'inattendu ?
On reçoit Sabatina Leccia, artiste plasticienne de Montreuil, qui nous présente son exposition dans le cadre du festival Sirène. Cette artiste qui réalise des photographies brodées propose ainsi 23 tirages originaux avec Traversée la nuit du 19 mars au 31 mai 2024.
Dans la suite de l'émission, le reportage de la rédaction s'intéresse à l'inscription de l'IVG dans la Constitution française avec le témoignage du député socialiste d'Ille-et-Vilaine, Michael Boulou, et de Louise Ferré, membre de l'association Nous Toutes 35 à Rennes.
En fin d'émission, la revue de presse du mardi s'intéressera au parcours extraordinaire du club du Bayer Leverkusen en Bundesliga, devenu ce week-end champion d'Allemagne avec 43 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues cette saison. Et tout de suite d'ailleurs, c'est l'heure de l'habituel flash de la rédaction du mardi 16 avril 2024, présenté ce soir par Angelina. La riposte de l'Iran contre Israël.
En réponse à une frappe d'Israël contre le consulat d'Iran à Damas le 1er avril, l'Iran, pour riposter, a lancé plus de 300 drones et missiles contre Israël dans la nuit du samedi à dimanche. L'armée israélienne a annoncé avoir déjoué cette attaque en précisant, je cite, que 99% des tirs iraniens avaient été interceptés.
Le procès inédit de Donald Trump.
À New York, ce lundi 15 avril, s'est ouvert le procès visant pour la première fois un ancien président américain devant la cour criminelle de Manhattan. Ce procès porte sur des visant à acheter le silence de l'actrice X Stormy Daniels. Il devrait durer 6 à 8 semaines.
La flamme olympique commence son périple.
Et oui, le rituel de l'allumage de la flamme olympique s'est déroulé ce mardi 16 avril à Olympie, en Grèce, berceau de l'olympisme. L'histoire des Jeux remonte il y a cela environ 3000 ans. Elle arrivera à Marseille le 8 mai à bord du trois-mâts Belen.
Un appel à témoins a été lancé en Ille-et-Vilaine.
Il a été lancé ce lundi soir par la gendarmerie d'Ille-et-Vilaine après la disparition inquiétante d'une femme de 38 ans. Elle a quitté son domicile en voiture de Melesse le 10 avril, mais n'a plus donné de nouvelles depuis.
Près de Rennes, un cambriolage malgré la présence de caméras en direct.
Et malgré l'alarme, la gérante n'a rien vu d'anormal sur son téléphone via les caméras de surveillance. Pourtant, des cambrioleurs ont volé pour 72 000 euros de bijoux ce mardi matin dans cette bijouterie située dans le centre commercial.
C'était le flash de la rédaction du mardi 16 avril 2024, présenté aujourd'hui par Angelina.
Et les revenus de notre invitée du jour, aujourd'hui Sabatina Leccia, artiste plasticienne spécialisée dans la photographie brodée.
Bonjour Sabatina Leccia, vous êtes artiste plasticienne de Montreuil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà un peu le principe de la photographie brodée que vous pratiquez personnellement ?
Alors en fait, moi j'ai commencé à l'inclure dans mon travail la photographie il y a très peu de temps, depuis 2022, à la suite de l'obtention d'une bourse qui s'appelle la bourse transverse, qui récompense un photographe et un artiste plasticien. Moi, dans le binôme, j'ai été l'artiste, et la photographe, c'était Clara Chichin. Et durant le projet qu'on a mené dans le cadre de la bourse transverse, je l'ai vu parcourir le paysage avec son appareil photo, et ça m'a donné envie, moi aussi, de prendre mon appareil photo, de créer du coup mes propres paysages. Et comme à la base j'étais brodeuse et le travail de l'aiguille je l'ai aussi inclus à la suite dans mes dessins, ça me semblait aussi logique de lui donner une existence aussi dans mes photos, parce que je trouve que c'est un peu comme mon fil rouge, on va dire, et je trouve que de par la broderie ou de par la perforation, il y a des détails qui viennent se révéler, ça vient créer un autre paysage dans le paysage. Et il y a aussi des jeux de lumière qui peuvent s'opérer avec la perforation de la photographie avec l'aiguille, notamment qui est visible à la chambre claire quand on voit le soleil qui passe au travers des trous et du coup qui vient révéler autre chose à la photo.
Et voilà. Oui, vous dites notamment que ça rajoute un peu de fragilité à la photographie, ça la rend un peu plus concrète, plus matérielle, on va dire.
Oui, ça la rend tangible, ça la rend sensible aussi. Et moi, ça me permet aussi, parce que c'est un processus de création qui est lent, c'est le travail de la main, donc c'est lent. Et moi, ça me permet aussi de méditer ces paysages. J'aime bien dire ça parce que ça, je prends du temps en fait à les regarder de nouveau en les brodant, en les perforant. Et du coup, je pense que j'ai l'impression de ressentir, en tout cas quand je le fais, des énergies de ces paysages que j'aperçois pas forcément au premier regard et que parfois j'ai envie de révéler par la broderie ou par la perforation en accentuant peut-être, en donnant corps, à ces énergies que je ressens aussi quand je regarde ces photos.
Voilà. Alors, vous avez travaillé dans la haute couture et vous parlez notamment d'un rythme effréné. Est-ce que justement, c'est tout l'inverse, ce travail de broderie sur la photographie? C'est un travail qui demande du temps?
Ah oui, complètement. Alors moi déjà, ce que j'ai pas du tout aimé dans la haute couture, c'était justement le rythme effréné qui est pas très humain, je trouve. Moi là, je suis dans une autre temporalité, ça n'a rien à voir. Où je prends vraiment le temps de... Déjà, il y a tout un processus où je vais prendre les photos, qu'ensuite je vais retoucher, et puis ensuite je vais rebroder ou reperforer, et qui sont presque, moi j'aime bien dire ça, au rythme de mes propres pulsations. Donc ça me reconnecte aussi à ma temporalité, à moi. Et ça, c'est quelque chose que je ne ressentais pas quand je travaillais dans la haute couture. Donc on est dans deux temporalités différentes pour moi.
Et comment alors se passe la sélection des photos qui vont être par la suite brodées?
Alors déjà, c'est des photos pour la plupart qui ont été prises beaucoup dans le Cap Corse, qui est ma région d'origine et qui est un peu le point de départ de mes rêveries depuis mon enfance, depuis mon adolescence, qui sont des paysages où la nature est très présente et les éléments comme la mer et les nuages sont particulièrement présents et ça m'a toujours fascinée. Donc c'est beaucoup de photos issues de ces paysages. Et aussi, il y a certaines images, ce sont des superpositions, donc où il y a à la fois ces paysages-là qui apparaissent et des images parfois de films que j'ai pu capturer avec mon téléphone portable que je viens superposer à d'autres photos numériques via Photoshop. Et du coup, ça apporte un grain. On voit par exemple la trame, c'est des films que je pouvais regarder sur mon ordinateur, donc on voit la trame de l'écran et je trouve ça assez beau puisque ça rappelle un peu mon travail de textile. Et du coup, c'est pour moi ce qui est important, c'est de fabriquer en tout cas que ces images, ces superpositions parfois inattendues ou ces couleurs que je vais apporter amènent vers un ailleurs et où la dimension poétique et onirique soit en tout cas très présente, qu'on la ressente bien.
Et alors, question un peu provocatrice, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est la photographie, la broderie ou les deux sont vraiment intriqués dans une sorte de fusion?
Ah, pour moi, c'est les deux, parce qu'en fait, la photo, parce qu'avant de les broder, je les fais tirer, ces photos-là, et je trouve que broder et non broder, ça n'a rien à voir. On est dans deux histoires très différentes. Il n'y a pas le même relief, il n'y a pas cette broderie qui apporte une forme de matière. En plus, je parle beaucoup de fusion, même dans la fabrication de mes photographies. Hein, c'est des superpositions d'images, des fusions de parfois territoires inattendu, et pour moi, c'est les deux sont importants en fait, la broderie et la photo. Ils vont de pair en tout cas dans la série que je propose, Traverser la nuit à Rennes 2 en tout cas.
Et ce travail pourrait connaître certaines évolutions, aller vers d'autres types de production qui allieraient toujours la broderie et la photographie, mais peut-être, je ne sais pas, qui s'associerait à de la peinture ou quelque chose comme ça?
Alors là, moi, mes prochaines, parce qu'en accrochant, par exemple, les photos à la chambre claire, je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite vu, moi, des diapos. Enfin, ça me faisait penser à des diapositives, la manière dont c'était disposé. Et ça, du coup, ça a été évoqué aussi pendant le vernissage. D'autres personnes ont eu ce ressenti-là. Et moi, ça fait quelque temps que j'aimerais bien travailler avec la diapo. Parce que je trouve que dans la diapo, il y a un côté un peu mystérieux, un peu magique. La photo n'a pas encore été tirée parfois. Enfin, c'est tout petit, il faut prendre de la lumière pour l'avoir. Il y a un côté un peu extraordinaire. Et moi, j'aimerais bien, peut-être le prolongement de ce projet, je suis en train de faire tirer justement des pellicules en diapo là. J'aimerais bien perforer en fait des diapos et faire passer et les projeter avec un vieux projecteur et voir ce que ça fait avec ces effets de lumière. Donc ce serait peut-être la prolongation. Donc ça serait pas vraiment brodé là, mais on retrouverait le travail de l'aiguille puisqu'il y aurait de la perforation. Et aller vers aussi des images, puisque ce seront des images projetées qui seraient un peu intangibles aussi, un peu rêvées aussi. Et ça m'intéresse aussi d'explorer ça, donc on va voir.
Alors vous l'avez dit, cette année vous êtes programmé au festival Sirène autour de la thématique tissage et métissage. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette participation au festival sur Rennes 2?
Déjà, je suis ravie. Et puis après, pour moi, les idées de métissage. Tissage, c'est inhérent aussi à mon travail et à la proposition photographique que je fais, qui est complètement métissée de par déjà parfois les superpositions de photos que j'amène. C'est un métissage d'images différentes, de par ensuite le travail de broderie qui est proposé. Ces deux univers qui viennent s'entrecroiser, et pour moi je trouve que c'est toujours très riche en fait ces rencontres là en tout cas, qu'est-ce que ça amène vers quelque chose peut-être d'inattendu, et je trouve que, enfin voilà, donc pour moi je trouve que ça correspondait, enfin en tout cas cette thématique du tissage et métissage correspondait bien à mon travail que je développe, mon travail autour du textile que je développe depuis quelques années.
Et même si vous avez déjà un peu répondu à la question, mais est-ce que justement une photographie d'un paysage, c'est une sublimation du paysage, ou c'est un nouveau paysage, un nouveau territoire justement que vous concevez à travers la broderie sur la photo ?
Bah moi c'est un peu, je sais pas si c'est vraiment des nouveaux territoires, enfin en tout cas c'est une proposition de mes territoires à moi, j'aime bien appeler ça aussi comme ça, puisque comme je les médite, je les transforme avec tous mes rêves internes. Donc c'est peut-être une proposition, il y a un point de départ réel qui est le paysage réel que je vais complètement transformer, et on arrive en tout cas vers un paysage qui n'existe pas en tout cas dans la réalité, mais qui est mon regard et mes rêveries internes, donc oui, on pourrait peut-être parler d'un autre paysage.
D'accord, et pour terminer peut-être les projets futurs qui auront lieu dans la suite du Festival Sirène ?
Alors, en tout cas, dans la prolongation de ce travail que je propose à Rennes 2, il va être exposé aussi en Corse cet été, dans un lieu qui est dédié à la photographie qui s'appelle Corsica Luce à Nantes. Donc ça, je suis très contente que ce travail-là soit aussi exposé en Corse. Et après, par rapport au projet que je mène dans le cadre de la bourse transverse, on est en train de travailler sur, puisque la finalité de cette bourse, c'est un livre, et je suis en train de travailler donc avec Clara Chichin et notre éditrice Céline des éditions Sun sur comment rendre justement la matérialité, puisque moi je suis intervenue aussi sur les images de Clara, comment rendre la matérialité de ce travail-là autour du livre. Et là on est en train de se pencher sur ce livre-là qui paraîtra en novembre 2024 à l'occasion du salon Polycopies. Voilà.
Très bien, et ben je vous remercie Sabatina.
Merci.
En tout cas, ça fera l'objet d'un montage sonore, puisque je vais recueillir plusieurs témoignages en fait de participants au Festival Sirène. Voilà, et donc ça fera un montage. Et je pourrais vous l'envoyer si vous voulez d'ailleurs.
Ah bah oui, avec plaisir. Et pour que je puisse aussi le relayer, je ne sais pas si c'est possible.
Ouais, bien sûr, parce qu'il sera édité en article sur notre site, donc voilà.
Ok, super. Voilà. Et avec grand plaisir en tout cas.
Merci beaucoup et bon courage alors pour la suite.
Oui, merci, au revoir.
Bonne journée.
Au revoir, bonne journée.
Et oui, je suis trop aimable, je crois, dans une interview en tout cas à réécouter sur le site de Scylla.fr.
Et tout de suite, on fait une première pause musicale avec l'artiste Brigent et son titre Working On It dans le 6 de la semaine de Syllabe par Thomas. Brigent, cette fois-ci, collabore avec le multi-instrumentaliste et producteur Doug Stewart. Ensemble, il offre une collection de titres groovy, créant un son élégant avec une palette rythmique. Tout de suite, c'est Work On It. Vous êtes toujours dans l'inattendu.
Thank you.
De Brigeon.
Podcast,
articles,
playlists,
concours.
Retrouvez-nous.
Retrouvez-nous sur le www.c-lab.fr.
C-lab.fr.
Et vous êtes toujours dans l'inattendu sur Syllab. Alors, il n'est pas 17h30, hein, pas encore, il est 17h17. Et dans la suite de cette émission, on parlera parcours extraordinaire du club du Bayer Leverkusen en Bundesliga. Mais tout de suite, c'est l'heure du reportage de la rédaction.
Il y a plus d'un mois, la liberté garantie des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse a été inscrite dans la Constitution française. On revient sur cette avancée avec le témoignage du député socialiste d'Ille-et-Vilaine, Michael Boulou, et de Louise Ferré, membre de l'association Nous Toutes 35.
La journée du 4 mars 2024 est, à de nombreux égards, une journée historique. En rassemblant au Congrès députés et sénateurs, Emmanuel Macron a mis au vote l'inscription de l'IVG dans la Constitution, une révision constitutionnelle finalement adoptée par 780 voix pour et 72 voix contre. Michael Boulou est député socialiste d'Ille-et-Vilaine et membre de la Commission des Finances.
C'est une journée très marquante, ne serait-ce que parce qu'on est tous rassemblés avec nos collègues parlementaires du Sénat. Tout le monde part en même temps de l'Assemblée, dans des bus, donc voilà, il y a une ambiance très particulière. Et on le sent toute cette journée que c'était une journée historique avec la consécration d'une liberté, une étape clé dans le combat pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Il y a cette spécificité du format et l'émotion qui est d'une avancée progressiste qui est quand même aussi à contre-courant de ce qui se passe dans le monde. Voilà, une journée vraiment émouvante et où on sentait le poids de l'histoire, si on doit le dire comme ça.
Une victoire institutionnelle sur les bancs du Congrès, mais aussi pour les milieux associatifs, avec malgré tout certaines limites. Louise Ferré est membre de l'association Nous Toutes 35 à Rennes.
Alors oui, ça prouve déjà que les mouvements féministes gagnent du terrain, donc ça montre qu'on gagne en puissance en fait. Les mobilisations font pression, c'était le cas par exemple pour la loi de 1975 sur l'IVG, par exemple, mais aussi celle de 2013 pour le mariage pour tous, c'est le cas du coup aujourd'hui, hein, c'est un peu ce qui se passe. Donc c'est quand même une victoire pour nous. Mais après, on ne s'oppose pas à cette constitutionnalisation, mais bon, on n'est quand même pas dupe sur le fait que c'est une liberté qui est inscrite, c'est pas un droit. Donc finalement, ça laisse pas mal de possibilités de poser des conditions restrictives en fait sur l'accès à l'IVG. Donc ça, on n'est pas dupe de ça.
Un point de vue partagé par une partie de l'opposition à l'Assemblée. Cependant, la France est désormais le premier pays à avoir inscrit l'IVG dans la Constitution, comme le rappelle Michael Boulou.
Petit élément, on aurait préféré, on indique la consécration d'un droit plutôt que celle d'une liberté. Mais voilà, on a cranté. Peut-être que on améliorera ça encore dans le futur. J'ai des collègues là qui sont allés, je crois que la semaine dernière ou la semaine d'avant, à l'ONU pour c'était autour du droit des femmes. il y a beaucoup de curiosité, il y a beaucoup de mais comment ça s'est passé, comment vous avez fait. Donc je crois que c'est un départ pour le monde, c'est une consécration pour la France, mais c'est un départ pour le monde.
Liberté ou droit, l'effectivité de la possibilité d'avorter pour une femme doit encore être établie, avec aujourd'hui quelques difficultés rencontrées dans l'accès à l'avortement.
Maintenant on a un droit qui est formel, mais il faut que ça soit un droit réel. Et on voit que dans certains endroits en France, ben c'est compliqué d'avoir accès à l'IVG, manque de pratiquants, réticence parfois. Et donc pour vraiment, on n'est plus cette disparité territoriale. 17% des avortements sont réalisés hors des départements de résidence des personnes.
En fait, il y a pas mal de fermetures des centres d'IVG, il y a pas mal de professionnels aussi qui pratiquent l'IVG, il y en a de moins en moins, enfin il n'y en a pas beaucoup en fait. Et donc déjà ça, ça pose quand même problème, c'est-à-dire qu'on est censé pouvoir faire un IVG. On est censé être libre de le faire, ok, mais les moyens ne sont pas mis pour qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions, que ce soit vraiment accessible à tout le monde, en fait. C'est ça vraiment le problème auquel on fait face aujourd'hui.
L'inscription de l'IVG dans la Constitution pose également la question de son utilisation par le gouvernement. La revendication de cette victoire par la majorité ne doit cependant pas cacher tout le travail en amont du mouvement féministe et du milieu associatif.
Ce vote, il n'a pas échappé aux instrumentalisations politiques. La Macronie s'est empressée de s'accaparer la victoire, mais rendons à César ce qui est à César. C'est d'abord, au-delà des députés d'un camp ou d'un autre, c'est la victoire des féministes. C'est celle des associations féministes, c'est celle du planning familial, c'est celle de tous les professionnels qui se battent chaque jour pour rendre l'avortement un droit réel et effectif qui accompagne au quotidien les femmes dans la revendication et l'exercice au droit de disposer. Donc c'est un long combat voilà, contre tous les conservatismes. Bon, ça fait partie du folklore de s'accaparer le résultat, mais je dirais sur d'autres sujets, on les a connus aussi. Quand on a déconjugalisé l'aide d'autonomie handicap, les macronistes ont été pendant des années contre et après ils revendiquent. On fait voter que c'est eux qui l'ont fait.
Oui, bien sûr, ça fait, c'est comme je disais, hein, c'est quand même une victoire. Mais par contre, le gouvernement Macron, en tout cas, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de truc. C'est un petit peu un rempart face à l'extrême droite. Il passe pour le bon centriste, en fait, alors que ben il y a plein de pays, justement, comme vous avez dit, aux États-Unis, en Pologne, etc., où les droits, nos droits sont vraiment attaqués, et lui, du coup, il se prend pour un antifasciste d'un coup, là, alors qu'il enchaîne les attaques de sécurité, les attaques racistes, sexistes. Bref, en fait, depuis qu'il est au pouvoir, l'extrême droite, pardon, reprend des forces, et ça, c'est un petit peu de la poudre aux yeux, quoi. C'est un petit peu ça. C'est toujours ça de pris, mais c'est pas suffisant par rapport à ce dont on a besoin, en fait. C'est clairement ce sur quoi on milite aujourd'hui.
D'autant qu'un amendement avait été déposé pour le droit à l'avortement il y a plusieurs années de cela, à l'époque par les députés socialistes.
C'est aussi une victoire pour les socialistes, moi c'est ce que je vais dire, qui portent le combat depuis plusieurs années. En 2018, lors de la réforme constitutionnelle, on défendait déjà un amendement pour reconnaître ce droit dans la préambule de la Constitution. En 2019, il y a aussi une proposition de la constitutionnelle, donc c'était sur le précédent mandat, moi j'étais pas encore député, mais c'est une victoire des groupes de gauche au Parlement. Parce qu'il faut se rappeler que dans cette législature, donc ça a été réintroduit par Mathilde Panot sur la journée parlementaire de la France insoumise, bah heureusement qu'il y avait les groupes de gauche pour le défendre au départ, avant que la Macronie ne se rallie.
La journée du 8 mars a été l'occasion de rappeler que les luttes intersectionnelles étaient loin d'être terminées, comme l'explique Louise Ferré.
Bah alors déjà, nous, on a fait une grande manifestation le 8 mars dernier pour la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et les grands axes de revendication en ce moment, c'est déjà l'abrogation de la loi asile-immigration, qui pour nous est une catastrophe sociale totale, quoi. C'est raciste, tout ce qu'on veut, quoi. Et il y a aussi l'idée des places d'hébergement. En Ille-et-Vilaine, on manque de 200 places d'hébergement d'urgence. Et il y a ce côté-là où ils veulent faire, ils mettent en parallèle les femmes victimes de violences et les personnes exilées. C'est-à-dire, oui, d'accord, mais dans ce cas-là, on peut virer les personnes exilées et comme ça, il y aura de la place pour les femmes victimes de violences. Sauf que nous, on est là, bah non, en fait, il faut de la place pour tout le monde. Et c'est juste qu'il faut plus de place et que c'est bien mignon d'ouvrir la maison des femmes, mais ça suffit pas parce que la maison des femmes ferme à 17h, donc à 17h, vous retournez chez votre agresseur, quoi. Donc c'est pas du tout ce qui était... C'est déjà sympa, mais ça suffit pas du tout. Et globalement, à nous toutes 35, c'est ça qu'on essaie de mettre en avant. On n'est pas d'accord, on va pas se laisser faire. Il va y avoir, déjà au mois de juin, il va y avoir la marche de fierté. On va forcément faire quelque chose à ce moment-là. Il y a plein de petites choses qui se préparent à droite, à gauche pour essayer de combattre, en fait, de montrer notre désaccord. Il y a aussi la coordination féministe, donc un regroupement de collectifs au niveau national. Il y a plein de choses qui se mettent en place aussi pour ne pas se laisser faire et pour construire en fait une réponse féministe à tout ça.
L'inscription de l'IVG dans la Constitution constitue alors un premier pas dans la reconnaissance des droits des femmes, mais doit être réinscrite dans des luttes plurielles. Cette conquête est alors loin d'être terminée.
C'est un combat parmi d'autres qu'on mène et on les mène en même temps pour tous et pour toutes, quelle que soit la nationalité, etc. Donc ça passe aussi, par exemple, par la lutte contre la loi et l'immigration, par exemple.
On peut donc voir que cette inscription de l'IVG dans la Constitution est une jolie avancée historique, mais qu'il y a encore des limites à cette liberté.
Tout de suite, on fait une seconde pause musicale, toujours dans le 6 de la semaine, avec Sacha de Bonnie Banane. C'est une artiste française qui peut mettre tout le monde d'accord. Et elle est actuellement en tournée dans toute la France. Elle nous a fait même l'honneur d'un passage plus que remarqué samedi soir au festival Mythos. Tout de suite, c'est Sacha, Bonnie Banane sur Syllab.
Chou, calamarsou. Chou, calamarsou. Qui m'a poussé à te dire bonjour ce jour-là, Sacha? Qui m'a sommé de foncer tout droit dans le dos, Sacha? Qui me l'a soufflé, m'a soufflé l'idée, bonjour,
bonjour.
Bonnie, enchantée.
Bonnie, enchantée.
Enchantez-moi, c'est l'amour. Pourquoi je t'ai mon dévolu sur quelqu'un d'autre que toi, Sacha? Pour toi, je m'ennuierai jusqu'aux chutes du Niagara, Sacha.
Sacha.
Sacha,
moi,
Sacha,
non.
Sacha,
Sacha.
Qui a fait le premier pas, qui sera le dernier à sonner le glas? Oh, qui a fait, I don't wanna wait, on a pas. I don't wanna wait, I don't wanna wait. 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 Qui me l'a soufflé, m'a soufflé l'idée, bonjour. Chantez-moi, c'est l'amour. Qui me l'a soufflé, m'a soufflé l'idée, bonjour. Bonne et enchantée, enchantez-moi, c'est l'amour. Pourquoi je t'ai tombé sur quelqu'un d'autre que moi, Sacha? Pour toi, je pourrais même disparaître.
C'était Sacha de Bonnie Banane. La revue de presse s'intéresse aujourd'hui au parcours extraordinaire du club de Bayer Leverkusen, devenu ce week-end champion d'Allemagne avec 43 matchs sans défaite, toutes ses compétitions confondues cette saison.
Eh oui, eux au moins ils ne toussent pas. En tout cas, oui, il y a une première fois à tout, mais il y a aussi plusieurs fois à tout, vous allez vite comprendre. Ce soir, je vous parle de la belle histoire cette saison du club du Bayer Leverkusen. Vous allez me dire, ici à Silla, pas de place pour la publicité des grandes firmes pharmaceutiques. Et je vous répondrai, bien vu. Et oui, comme le Red Bull Salzbourg et le Red Bull Leipzig, le Bayer Leverkusen aborde dans son nom le nom d'une grande firme, celle du Bayer. Ainsi, il ne faut pas le confondre avec l'équipe du Bayern, quoique cette saison ce serait tout à fait possible. Mais revenons à cette première fois. Comme l'explique le journal L'Équipe, je cite « Le Bayer Leverkusen est champion d'Allemagne pour la première fois, alors que nous attendons par exemple 7 ans pour embrasser notre premier amour. Merci Angelina pour ton témoignage. Le club de Leverkusen aura attendu 119 ans pour soulever son premier Deutsche Meister. Comme le souligne Luc Agege, ça va même au-delà puisque le Bayer Leverkusen pourrait, je cite, soulever en une seule saison davantage de trophées qu'en 119 ans d'histoire jusqu'ici. Lui qui a remporté la C3 en 1988 et la Coupe d'Allemagne en 1993. Une saison extraordinaire pour l'ancien joueur du Bayern Xabi Alonso, entraîneur désormais du Bayer, et ses joueurs qui ont également égalé un record, comme le rappelle le Figaro, puisqu'en disputant dimanche son 43e match de la saison sans perdre, dont 38 victoires, le Bayer Leverkusen égale, je cite, la performance de la Juventus Turin en 2011-2012, avec une différence importante, celle que les joueurs de Turin n'avaient pas de Coupe d'Europe à disputer à l'époque, ce qui change beaucoup de choses quand on n'a pas 3 matchs à disputer parfois dans la semaine. Alors bien évidemment, au-delà des chiffres, ce sont des joueurs dont un représente bien l'explosion fulgurante de l'équipe de Leverkusen. Le média SoFoot nous donne ainsi les stats hallucinantes de Florian Wirtz, auteur de 17 buts et 18 passes décisives cette saison, et elle n'est même pas terminée. Lui qui a pu célébrer le titre de son équipe dimanche dernier en s'offrant un triplé face au Werder Bremen, devrait cependant rester au club la saison prochaine malgré les convoitises, tout comme son entraîneur, puisque selon SoFoot, alors que certains envoyaient Xabi Alonso à Liverpool ou au Real Madrid, le coach espagnol a également annoncé qu'il resterait au club la saison prochaine.
Mais que reste-t-il alors du Bayer Leverkusen d'ici la fin de saison ?
Eh bien, en plus d'aller chercher un nouveau record d'invincibilité, il pourrait tout simplement être invaincu en Allemagne cette saison, quelque chose qui ne serait donc pas arrivé depuis le record de la Juventus de 2011-2012, ou encore les invincibles d'Arsène Wenger et de Thierry Henry de la saison 2003-2004. Et si des scènes de liesse ont pu être observées dans le stade de Leverkusen et dans les rues de la ville, comme l'explique encore SoFoot, à la fête succédait l'hommage, celui de supporters qui ont décidé de renommer la Bismarckstrasse, donc la rue de Bismarck, en Xabi Alonso Alley, l'allée Xabi Alonso, histoire, comme se sont amusés d'autres fans de Leverkusen, de conjurer la malédiction de Leverkusen. Tiens d'ailleurs, petite pensée à Harry Kane, hein, qui n'a toujours pas gagné de trophée, le pauvre. Pour terminer cette revue de presse, le journal L'Équipe ne peut s'empêcher de penser à la suite pour Leverkusen et à l'exercice 2024-2025, puisqu'il est souvent compliqué de trouver de la continuité après une saison extraordinaire. Mais le journaliste de L'Équipe rappelle que la décision de Xabi Alonso de rester la saison prochaine est un signal fort envoyé à ses joueurs, quitte à pourquoi pas prolonger le rêve une saison. On laisse là les joueurs rhénans qui n'ont pas manqué d'arroser de bière leur entraîneur après le titre de son équipe, une tradition. Et de toute façon, au vu de leur belle aventure, on ne préparera pas la bière de sitôt.
Merci Miad pour cette revue de presse.
L'inattendu sur Syllab, 17-18h.
L'inattendu, c'est déjà fini. Rendez-vous jeudi 17h pour votre émission préférée d'actualité locale, étudiante et scientifique.
Restez sur Syllab car à 20h, vous retrouverez l'émission musicale Sortez les briquets.
On remercie Ulysse à la technique.
Et on vous souhaite une bonne soirée sur Syllab.
L'inattendu.
Vous êtes toujours dans l'inattendu.
Ils pensaient les appels.